France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bon.
Bonsoir à tous. La rigueur touchera-t-elle en premier lieu les chômeurs? Gabriel Attal devrait évoquer dans les minutes qui viennent une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Et ce, après un séminaire du gouvernement ce matin consacré au travail, qui, répète-t-il à l'envi et à nouveau sans doute ce soir, doit toujours mieux rémunérer que l'inactivité. Le tout avec un déficit public, on le sait depuis hier, qui a totalement dérapé. Comment résorber ce déficit? Les informés de ce soir sont là avec leurs infos, leurs éclairages économiques et politiques. D'abord l'économiste Jean-Hervé Lorenzi qui est avec nous, membre et fondateur du Cercle des économistes. Pascal Richer à côté de vous, grand reporter au Nouvel Obs. Franck Boisis, journaliste économique à Libération. Et Adrien Becht, journaliste politique à France Info. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
Quelle est donc cette voix de la rigueur? Il a prononcé le mot deux fois hier, le Premier ministre. Quelle est donc cette voix de la rigueur que compte suivre le gouvernement? On en saura plus donc ce soir, puisqu'il est l'invité du 20h de TF1. Son mantra depuis son arrivée, je le disais, c'est « le travail doit toujours mieux rémunérer que l'inactivité ». On verra à qui ça s'adresse, notamment à ces fameuses classes moyennes dont il parle beaucoup. C'était en tout cas l'objet du séminaire ce matin à Matignon et de l'interview de ce soir. Je vous propose d'écouter avant d'en parler, avant ça, Bruno Le Maire, ministre de l'économie. C'est aux questions d'actualité au gouvernement, au Sénat cet après-midi, sur la philosophie globale.
J'ai très peu de courriers me proposant des réductions de dépenses, mais beaucoup de courriers m'invitant à dépenser davantage pour mieux protéger les Français. Il faut sortir de cette addiction à la dépense publique qui est la caractéristique de la France. Il faut être capable de réduire les dépenses qui ne sont pas efficaces et qui ne sont pas utiles. Il faut être capable de faire des choix de politique publique. Et les choix que nous défendons avec le gouvernement, ils sont clairs. Une société du travail en réformant l'indemnisation du chômage. Une société de la responsabilité en étant capable de sortir du tout gratuit. Et une société de l'innovation pour avoir plus de croissance dans notre pays. Voilà la voie que je vous propose, monsieur le sénateur.
Adrien Becht, quand on entend addiction, tout gratuit dans la bouche de Bruno Le Maire, alors que certains bougent un petit peu dans la majorité, comment vous entendez ça et est-ce qu'il prépare en clair le terrain pour ce soir, pour Gabriel Attal?
Alors, on peut même dire que Bruno Le Maire fait aussi du Bruno Le Maire, hein. C'est-à-dire que là, il est dans la ligne qu'il trace, dans le sillon qu'il creuse sur cet état protecteur plutôt que cet état-providence, c'est le livre qu'il a écrit. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment la rhétorique de Bruno Le Maire, c'est quelque chose qui lui est propre.
Et on va dire dans une rhétorique plus dure.
Voilà, exactement. Bruno Le Maire assume d'être une forme de père à la rigueur et, j'allais dire, d'aller jusqu'au bout dans ce rôle-là. En revanche, là où vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il prépare les esprits à ce soir, c'est quand il évoque cette question de l'assurance chômage. Alors c'est une question qui est dans l'air quand même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On sait que le gouvernement est tenter de reprendre la main sur ces négociations, après les négociations qui sont réalisées par les syndicats pour l'instant sur l'emploi des seniors. Et donc, effectivement, il l'évoque et on imagine que Gabriel Attal va l'évoquer. Ça n'est pas exactement nouveau, hein, ça ne sort pas du chapeau, mais effectivement, Bruno Le Maire semble aussi préparer ce terrain-là, vous avez raison.
Franck Boisis, il y a un côté good cop, bad cop dans le duo, là.
Alors, s'il y a un côté good cop, bad cop, Bérangère, il est clair que Bruno Le Maire assume clairement le côté du bad cop. L'évolution dans les mots, d'ailleurs, est intéressante, puisque le terme de rigueur budgétaire vient simplement maintenant d'être employé. Avant, il y avait une sorte d'hésitation à employer ce terme, mais on a le sentiment que les choses vont bouger. Il y a eu un séminaire gouvernemental, on commence à avoir quelques fuites qui s'est passé ce matin. Et cette volonté, comme disait Adrien, de reprendre en main l'assurance chômage, et la reprendre en main, il faut appeler un chat, ça veut dire soit baisser la durée d'indemnisation, soit baisser le montant des allocations. C'est les deux leviers sur lesquels on peut agir. Donc, toute reprise en main signifie que pour ceux qui sont indemnisés aujourd'hui, demain sera une période plus difficile.
Jean-Hervé Lorenzi, quand on parle de rigueur, quand le Premier ministre prononce ce mot autour duquel, on va dire, tout le monde tournait un peu, effectivement, ces derniers jours, vous l'entendez aussi comme un signal. C'est quelqu'un qui choisit ses mots, quand même, le Premier ministre, qui s'est communiqué.
Moi, j'ai beaucoup de peine à utiliser ce terme. Il se trouve qu'étant le plus âgé de vous tous, j'étais en 1983, où
évidemment,
vous
hein, c'est connoté
tournant de la rigueur.
83, bien
le
sûr,
tournant de la
c'est
rigueur, que... j'étais un peu un des gratte-papiers de l'époque. Ce mot de rigueur me paraît toujours, j'allais dire, un peu excessif. C'est-à-dire que on était en train de parler de quelques dizaines de milliards d'euros. Je rappelle juste que l'ensemble de nos dépenses, c'est de nombreuses centaines de milliards d'euros, puisqu'on est de l'ordre de 400 ou 500 milliards d'euros en tout. Ce qui est très intéressant, c'est de voir, au-delà de la rigueur, d'abord on va constater que ce qui est dit aujourd'hui sera dépassé dans les jours qui viennent, parce que c'est pas les 10 milliards ou les 20 milliards, vous voyez bien, qui vont résoudre les problèmes. Les sujets sont...
Ce sera beaucoup plus.
Bien entendu, il sera plus.
Dès cette année.
Bien entendu. Et deuxième aspect, bien entendu, d'une manière ou d'une autre, il va falloir faire payer les Français un peu plus. Donc cette histoire, tout ça, on est dans un domaine de la communication. Mais le vrai sujet, c'est celui de savoir si, dans cette trajectoire économique française, qui est compliquée, hein, c'est très compliqué, productivité faible ou négative, très faible, c'est-à-dire capacité de croissance très faible, comment est-ce qu'on peut essayer de maintenir de la croissance en essayant en même temps de réduire des déficits qui sont très importants. C'est très compliqué comme sujet, et ma conviction, c'est que, un, évidemment, il va y avoir un peu de hausse d'impôts sous une forme ou sous une autre, mais on va taxer...
Ah, vous dites évidemment, mais enfin, il y a quelques jours, c'était pas évidemment.
C'est le discours officiel,
comme j'ai dit,
même si
ma vieille expérience m'amène à penser que finalement, je ne me trompe pas trop sur mes propositions. Donc, on va avoir, un peu d'augmentation. Il va y avoir... quand vous baissez et vous modifiez les règles d'assurance chômage, c'est l'augmentation des impôts. C'est l'équivalent, ça revient au même. Parce que vous baissez des cotisations, ça revient à peu près au même.
Si ce n'est que l'impôt touche tout le monde, monsieur Lorenzi, alors que l'assurance chômage touche uniquement les demandeurs d'emploi.
Je suis d'accord. Mais vous allez voir que la suite de ce que je vous propose ne touche pas non plus tout le monde. Les super profits, ça ne touche pas non plus tout le monde, ça vous a pas échappé. Et donc, là aussi, il va y avoir évidemment quelque chose, pardon cette utilisation abusive du mot évidemment, il va y avoir peut-être...
Il y a beaucoup d'évidence ce beaucoup, soir,
manifestement. Oui, beaucoup d'évidence. Peut-être, pour être en accord avec mon camarade, peut-être une taxation sur les surprofits. De la même manière, je vois que on réfléchit sur la TVA sociale, qui est alors là un vrai sujet, pas la taxation des surprofits, qui est pas un sujet géant. Non, mais c'est pas un sujet géant. En termes d'ampleur de sujet et de gens concernés. Si vous touchez une vingtaine d'entreprises, c'est pas la France entière qui est concernée. Si vous touchez, vous faites une TVA sociale, vous passez de 20 à 25, ça concerne tous les Français.
Alors, on va évoquer toutes ces pistes. On a une heure pour ça. Et je vous dis, on garde une oreille sur l'interview de Gabriel Attal. D'abord, le fil info. Sophie Tussaud, 20h10.
Gabriel Attal a reçu cet après-midi le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Le chef d'établissement a démissionné après avoir été menacé de mort après une altercation avec une élève. Il lui avait demandé de retirer son voile. Le parquet de Paris ouvre 3 enquêtes après les cyberattaques dont ont été victimes les ENT de plusieurs lycées dans toute la France. Une vingtaine d'établissements scolaires à Paris ont été visés la nuit dernière par de nouvelles menaces d'attentats islamistes. Anthony Blinken, attendu à Paris la semaine prochaine, le secrétaire d'État américain sera reçu par Emmanuel Macron. Ensemble, ils parleront notamment du soutien à l'Ukraine. L'Ukraine qui réclame à nouveau aux Occidentaux des avions F-16 et des systèmes anti-aériens patriotes. Des frappes russes ont visé le pays aujourd'hui, notamment la ville de Kharkiv. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye remporte la présidentielle avec 54,28% des suffrages. Résultat officiel annoncé par la cour d'appel de Dakar. Et puis de nouveaux records pour la Bourse de Paris. Le CAC 40 a atteint 8230 points en séance. Aujourd'hui, a clôturé ce soir en petite hausse de 0,25 points à 8206 points.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Pascal Richer est là pour le Nouvel Obs, Franck Boisis pour Libération, Jean-Hervé Lorenzi pour le Cercle des économistes et Adrien Beck pour France Info. Pascal Richer, on finit le tour de table parce que ce mot rigueur, vous aussi, vous l'avez entendu comme nous.
Entendu et je pense qu'il est totalement inapproprié dans la situation conjoncturelle actuelle. En principe, en bonne politique, on fait de la rigueur quand les choses vont bien. Et en revanche, on lâche les vannes un petit peu quand les choses vont mal. Et aujourd'hui, on a une croissance qui est atone, environ 1%, et on a une banque centrale qui appuie sur le frein, et maintenant le gouvernement dit « je vais appuyer sur le frein », c'est-à-dire « je vais faire de la rigueur ». Je vais comprimer les dépenses, je vais peut-être augmenter les impôts. Alors ça dépend quels impôts ils augmentent. S'ils augmentent les impôts sur les super profits, sur les très riches, je pense que ça pèsera pas tellement sur la demande. Maintenant, s'ils augmentent la TVA, là effectivement, on sera dans une autre forme de rigueur, une rigueur fiscale, mais quand même, ce sera aussi appuyé sur le frein. Donc je pense qu'ils se trompent comme ils se sont trompés en 2009-2010 où on a fait une politique de rigueur au moment où il fallait pas faire de politique de rigueur. Et aujourd'hui, il faut pas en faire.
Jean-Hervé Lorenzi, la rigueur, c'est que pour les périodes de prospérité ?
Oui, mais je suis d'accord avec Pascal, mais évidemment, je suis d'accord avec lui, il a évidemment une explication de la rigueur intelligente ou non. Ça va être un peu de politique de rigueur, qu'on le veuille ou non, parce qu'il faut bien... On a quand même un gros problème. Moody's, une des agences de notation, a annoncé aujourd'hui qu'elle ne croyait pas à la réduction de nos déficits jusqu'à 3%, 2,7% dans 4 ans.
Ça nous prépare une baisse de notes, c'est ça ?
Donc il faut faire un peu d'agitation quand même. On ne va pas éviter de l'agitation. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est rigueur intelligente ou non. Rigueur inintelligente, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va essayer d'un peu diminuer un peu à droite, à gauche. Tout ça va pas faire de changements et de bouleversements terribles, sauf dans la psychologie générale. En revanche, notre vrai sujet, et Pascal va être d'accord avec moi.
J'espère.
Si tu n'es pas d'accord, je ne suis pas content, va être d'accord avec moi parce que notre problème, c'est où est-ce qu'il faut investir? Il faut investir. Investir dans le climat, investir dans le numérique, investir dans le vieillissement. Parce qu'on ne s'en sortira pas autrement.
Et donc, peu importe le déficit, on s'assoit sur les 3%.
Parce qu'investir.
C'est une option qui est portée par beaucoup d'économistes.
On serre les boulons tout de suite, comme ça, de façon... comme on l'a fait en février, d'ailleurs. En février, tu parlais de climat. Bon, sur les 10 milliards, il y a 2 milliards et demi, quand même, qui ont été pris
C'est pour ça que je pose la question.
Mais au lieu de faire ça, on pourrait tracer une trajectoire. 3 ans, 4 ans, quelque chose de raisonnable.
En plus, ce qui a été fait et pas respecté.
La focalisation sur ce chiffre de déficit est absurde, parce que c'est un chiffre qu'on fétichise, alors qu'il faut regarder beaucoup d'autres paramètres. Il faut regarder le niveau de la dette sur PIB, qui, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas explosé l'année dernière, il a même plutôt diminué. On est passé de 111 à 110%. Il faut regarder les charges.
On va rappeler que dans les critères de Maastricht, si je ne dis pas de bêtises, c'est 60%.
Oui, d'accord.
Okay, objectif.
D'accord. Mais ce qui est important aussi, c'est la charge de la dette. Combien on paye chaque année? Est-ce que ça augmente ou pas?
Ça va avec.
Oui, ça va avec. Mais comme les taux d'intérêt vont baisser, visiblement, avec la décélération de l'inflation, ça va être supportable. Donc, je veux dire, il faut pas. J'ai l'impression d'un gouvernement en panique pour des raisons politiques, parce que effectivement, ils ont très peur à la fois du Front National et de la concurrence de certains droites. Bruno Le Maire.
Et les agences de notation, Pascal.
Et alors, il y a aussi les agences de notation. Mais j'espère qu'elles sont un peu plus intelligentes.
Je rebondis sur votre expression de gouvernement en panique, Pascal Richer, parce que on va écouter une voix qu'on entend pas souvent ces derniers temps à droite. C'est Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qui est pas loin de dire ce que vous dites, avec une formule un peu imagée.
Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est l'état lamentable de notre pays. Et de voir le gouvernement qui réagit comme une poule sans tête. On a des déficits abyssaux qui sont en train de compromettre juste la souveraineté de la France. Et on a un gouvernement qui, au lieu de réagir clairement, en proposant enfin de corriger les choses par rapport au gaspillage de l'argent public qu'il a laissé s'accumuler, est en train de réfléchir à comment est-ce qu'il peut encore augmenter des impôts sur la tête des Français ou éventuellement aller prendre sur l'assurance maladie ou les collectivités locales. Et j'appelle ça des gens qui cherchent des alibis pour aller chercher dans la poche des Français ce qu'ils ne sont pas capables de faire en bonne gestion. Et je pense que les Français regardent ça et qui se disent « mais où est tombé notre pays ?»
Voilà, je vais préciser.
C'est pas tout à fait ce que j'ai dit.
Quand je dis panique du gouvernement, c'est là-dessus que je rebondissais. Évidemment que son analyse n'est pas la même. Et notamment, on a bien entendu ce que vous disiez sur les déficits. Franck Boisis, vous voulez réagir?
Oui, parce que il y a cet épouvantail de la dette qui est brandi de manière très politique, peut-être pour effrayer un petit peu nos concitoyens. Mais revenons aux fondamentaux. La France a ce qu'on appelle dans le jargon financier une très bonne signature. C'est-à-dire quand la France, ce qui lui arrive tous les jours, veut émettre un emprunt sur les marchés financiers, les prêteurs, j'allais dire, se précipitent pour prêter à la France, parce que la France n'est pas la Grèce, et on sait que la France ne sera pas en défaut de paiement, et qu'elle remboursera ses échéances. Donc, à un moment donné, comme dit le vieil adage, on ne prête qu'aux riches, et la France a encore une capacité à de tirer sur son endettement, sans pour autant se mettre en danger.
La France remboursera, vous dites. On remboursera cette dette.
Mais on rembourse Bérangère régulièrement, parce que les emprunts, vous savez, c'est des échéances qui, Jean-Rabé Lorenzi connaît ça très bien. On rembourse chaque mois les échéances précédentes, et jusqu'à présent, la France n'a jamais fait défaut.
En un mot, maintenant qu'on est, on est tous les trois d'accord, chère madame, on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas en train de vivre un drame. Je veux dire, ce que tu viens de dire est très juste, c'est-à-dire que on va rembourser. J'ai entendu le même soir, un soir des informés, quelqu'un qui disait « mais l'Europe va être obligée de se retrouver en train de nous aider ». C'est pas l'Europe qui nous aide, ce sont des marchés qui achètent de la dette tous les jours, et il se trouve qu'ils l'achètent à 40 points de base supérieurs à l'Allemagne. Donc, en réalité, ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention, ça veut juste dire qu'il faut ramener la situation à ce qu'elle est. On a un problème avec les agences de notation, c'est ça le sujet de fond. L'agence de notation, il faut...
Eux vont regarder les chiffres, enfin eux vont regarder le déficit.
Oui, enfin, il
regarde. Et vous dites vous-même que Moody's a des gros doutes, et l'a dit aujourd'hui, sur la capacité de la France
à réduire
ses
déficits. Vous savez, madame, le chiffre qui, moi, m'intéresse, c'est celui de la croissance, celui de la productivité, c'est celui qui va jouer sur les années qui viennent. Si on continue comme ça, ce que vient de dire Pascal, tout à l'heure, en décrivant un scénario du pire, on a quatre ans de stagnation absolue. Je vous dis pas dans quel état sera le pays si on a 4 ans de stagnation absolue. Donc il faut essayer d'être plus imaginatif. Je vous rappelle juste qu'on a 100 milliards de dividendes ou de rachats d'actions. Mmh. On a 170 milliards d'épargne. Donc il faut être très imaginatif. Comment est-ce que on canalise tout cet argent disponible dans notre pays pour investir. Il faut qu'on investisse pour être bon en intelligence artificielle. Il faut qu'on investisse, etc., etc., etc. C'est ça le sujet. Alors maintenant, il y a le très court terme. Et si j'étais ministre de l'économie, j'agiterais un peu mes mains pour donner le sentiment qu'on a la maîtrise absolue. Mais c'est pas ça le sujet.
Je peux ajouter quelque chose. Si on fait de la rigueur alors que la croissance est à tône, on risque d'arriver au résultat inverse que l'on cherche, à savoir une augmentation du déficit, parce que la croissance, c'est aussi des recettes fiscales. Si vous tuez la croissance, vous avez les recettes fiscales qui tombent, et là, vous avez un déficit qui augmente. Donc, il faut faire très, très, très attention avec la politique économique en ce moment.
On va laisser passer le fil info, et puis on évoquera l'assurance chômage spécifiquement, parce que c'est important de comprendre aussi les enjeux pendant que Gabriel Attal s'exprime sur TF1. 20h20, Sophie Tussaud pour le fil info.
Ces départements bretons et de Nouvelle-Aquitaine sont placés en vigilance orange au vent violent pour demain. Le Var est également classé en orange, mais pour vague submersion. En raison de l'arrivée de la dépression Nelson sur l'ouest du pays, la circulation des trains sera perturbée demain en Normandie. Les antibiotiques de la famille des fluoroquinolones dans le viseur de la justice. Une enquête pour blessures involontaires et tromperies a été ouverte à Paris après la plainte d'une vingtaine de patients. Près de 9 mois après la disparition du petit Émile, une mise en situation aura lieu demain dans le hameau du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. 17 personnes ont été convoquées pour y participer. Le public a 3 semaines pour se prononcer sur la mise en service de l'EPR de Flamanville dans la Manche. L'autorité de sûreté nucléaire a ouvert une consultation. Une autorisation est nécessaire pour charger le combustible dans le réacteur.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Pascal Richet du Nouvel Obséla, Franck Boisis de Libération, Jean-Hervé Lorenzi du Cercle des économistes, vous aurez compris qu'ils sont plutôt d'accord jusqu'ici, on va voir si ça continue. Avant de parler de l'assurance chômage, Franck Boisis, juste pour revenir sur ce que disait Jean-Hervé Lorenzi sur la dégradation de la note, est-ce que c'est un drame finalement si Moody's et les autres dans la foulée dégradent la note de la France?
Alors on a donné beaucoup d'importance à ces deux agences de notation qui font un peu la pluie et le beau temps en notant la dette des pays, même celle des entreprises d'ailleurs. Bon, mais imaginons le scénario du pire, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le rating, la notation de la France, soit un tout petit peu dégradée par Moody's. Quelle va être la conséquence? C'est simplement que à l'avenir, on va emprunter un poil plus cher sur les marchés et que finalement, le remboursement de la dette sera renchéri de quelques centaines de millions d'euros. Par rapport au budget de la France, aux actifs de la Maison France, c'est absolument pas un drame. Et si je puis me permettre juste par cette image, parce que c'est un truc qu'on connaît pas tellement, c'est dans les coulisses de Bercy. Il y a une grande salle dans laquelle, tous les jours, des fonctionnaires de Bercy empruntent sur les marchés financiers. Et ce qui est saisissant à voir, je vous le raconte en 15 secondes, c'est que chaque semaine, le mardi après-midi, donc c'est la grande séance des emprunts, la France dit « j'ai besoin de temps cette semaine ». Et la réponse des marchés pour satisfaire la demande de la France en emprunt se fait en quelques millisecondes. C'est assez hallucinant. C'est-à-dire, dès que la France dit « j'ai besoin ».
C'est-à-dire, personne n'hésite.
Personne n'hésite et tout le monde dit « ok, je veux de la dette française ». Donc, je pense que ça devrait rassurer tous ceux qui nous écoutent.
Et quel que soit le alors évidemment on va pas imaginer une dégringolade,
un chaos,
mais ça, quel que soit le
bah pour le moment, quasiment. On peut le constater, toutes les émissions d'emprunt de la France trouvent preneur immédiatement.
Comprenez-nous bien. Je crois, je m'exprime au niveau du groupe des trois. Comprenez-nous bien. Je ne crois que personne, aucun de nous trois, ne pense qu'il ne faut pas essayer de, j'allais dire, de rationaliser nos dépenses. Il se trouve que nos dépenses sont souvent, j'allais dire, pas très efficaces, que notre pays a tendance à investir dans les pavés des rues. On a beaucoup les ronds-points. On dépense beaucoup d'argent qui ne correspond pas à la capacité de développer la croissance dans notre pays. Mmh. On fait des tas de choses. C'est vraisemblablement pas mal, mais sur le fond, évidemment qu'il faut essayer de regarder tout ça. Ben, il faut être sérieux. Mais ce que je crois nous disons tous les trois, c'est de dire que, un, le monde n'est pas en train de s'effondrer. Deux, quand les agences de notation, tu as même évoqué l'idée qu'il puisse y avoir un surcoût de l'achat de la dette. Peut-être, mais c'est même pas évident. Moi, je me souviens toujours de la dégradation de la dette américaine. Ça n'avait pas changé un epsilon en août, il y a quelques années. Pas un epsilon.
Ça avait été anticipé.
Voilà. Donc, tout ça pour essayer de raisonner, non pas au jour le jour, mais de raisonner sur les 3-4 années qui viennent. Quelle est la trajectoire utile de croissance de notre pays? C'est ça le fond du sujet.
Alors, une partie de ce sujet, c'est de faciliter le retour à l'emploi. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ça nous amène à l'assurance chômage. J'ai lu les passionnants papiers de Pascal Richer dans le Nouvel Obs sur ce gros mot imprononçable que vous allez prononcer vous-même. Allez, je tente.
Vous voulez parler de la contracyclicité,
voilà. qui était la grande idée du gouvernement en 2022. Dites-vous. Et ma question plus globale, est-ce que c'est le bon moment?
En fait, il faut le contraire.
Pour faire cette réforme de l'assurance chômage, aujourd'hui, on dit qu'il faut un contexte favorable. Je pense que vous allez revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, mais je vous laisse expliquer.
Pour ce qui est de la contracyclicité, c'est l'idée que quand les choses vont bien, on n'a pas besoin d'indemniser aussi bien les chômeurs puisqu'ils retrouvent facilement du travail. Et quand les choses vont mal, on a besoin de leur mettre une couverture chômage plus importante.
D'accord.
Ça, c'était la théorie qu'ils défendaient bec et ongles en 2023. Et un an plus tard, les choses vont mal et ils disent il faut raboter encore l'assurance chômage. Donc on voit bien que il n'y a pas de logique économique. Il y a peut-être une idéologie ou des calculs politiques. Cette réforme, à mon avis, s'inscrit dans la tradition de dénoncer les assistés, les prétendus assistés.
Là, on sort de l'économie, on rentre dans la morale.
On est dans la politique avec
cette
réforme.
On
est dans la politique. On voit bien que ce gouvernement essaye d'exister, de ramener un électorat qui est en train de partir vers le Rassemblement national en utilisant une rhétorique bien connue depuis le 19e siècle sur la dénonciation des chômeurs, des inactifs, etc.
Alors, si on vient à l'économie, justement, Franck Boisise, l'état de l'UNEDIC, est-ce qu'il est catastrophique?
Bien justement, non, Bérangère, parce que là aussi, on a un chiffon rouge qui est agité, qui est de dire finalement, s'il faut réformer l'assurance chômage, c'est parce que les comptes de l'assurance chômage sont dégradés.
Pas le cas.
Alors, j'ai sorti des chiffres qui sont ceux de l'UNEDIC. C'est-à-dire que ce n'est pas une étude qui est faite par une organisation syndicale dont on pourrait dire qu'elle est jugée partie, mais l'UNEDIC, c'est-à-dire l'assurance chômage, nous dit qu'en 2023, il y a un excédent dans les comptes de l'assurance chômage d'1,6 milliard. La prévision en 2024, c'est un excédent de 1,1 milliard, et en 2025, c'est un excédent de 3 milliards. Et encore, je précise, cet excédent est calculé après que l'État, chaque année, ponctionne le budget d'assurance chômage. C'est-à-dire que cette année, l'État a ponctionné 2 milliards sur le budget d'assurance chômage.
Eh ben alors, pour le coup, je me retourne vers vous, Pascal Richer. C'est le bon moment pour cette trigger.
Non, mais parce que là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la politique de la caisse vide. C'est-à-dire qu'ils ponctionnent la caisse de l'UNEDIC. Et d'ailleurs, ils veulent prendre le contrôle de l'UNEDIC, ils le disent. Alors qu'en principe, l'UNEDIC, théoriquement, historiquement, c'est un organisme qui est
paritaire.
Contrôlé de façon paritaire avec, effectivement, le parrainage de l'État. Mais là, ils veulent vraiment reprendre cette caisse parce qu'effectivement, il y a de l'argent à faire. Là, depuis quelques années, ils ont pris, je crois, 12 milliards en 3 ans.
Factuellement, toujours, essayons d'être factuels, diriez-vous que les difficultés de recrutement ont un rapport avec la générosité de ces prestations chômage, puisque c'est aussi ça le sujet. Quel regard vous avez, Jean-Yves Lorenzi?
Non.
Il allait dire pas de
non.
Rapport.
Moi, je suis désolé, on est tous d'accord.
J'allais dire non, c'est horrible. Si
c'est horrible. Bien sûr que non. La réalité, c'est qu'on a, depuis l'affaire de la Covid, une difficulté qui est une vraie difficulté, qui est que beaucoup d'emplois, et notamment d'emplois à très faible qualification, ont 3 problèmes. Un problème de rémunération, très difficile. Tout ça est difficile à traiter. Hein. C'est très facile de l'extérieur de dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais c'est un problème de rémunération.
D'attractivité,
un problème de
dire,
considération. Considération. Moi, je me souviens d'avoir été, pendant la Covid, sur mon balcon, en train d'applaudir les éboueurs, etc. Tout ça a disparu. Et puis un troisième problème qui est le plus grave, qui est le plus spécifique de notre pays, qui explique d'ailleurs la faiblesse du taux d'emploi des seniors. Donc vous voyez, c'est très profond. C'est le fait qu'il n'y a pas de trajectoire d'amélioration dans notre pays. C'est un problème qui est autrement plus compliqué que de savoir si on enlève un mois ou deux de pour l'assurance chômage. Dans la réalité, quand vous êtes au SMIC, vous êtes scotché au SMIC, ou en gros au SMIC. Quand vous êtes non qualifié, vous êtes scotché aux non qualifiés. Notre pays, ce qui n'était pas le cas il y a, mettons, un demi-siècle, a en réalité segmenté le marché du travail en faisant que nous, là, tous les quatre, et vous inclus, chère Bérangère, on est en gros dans des stratégies qui peuvent évoluer, s'améliorer. C'est pas le cas de l'immense majorité des non qualifiés. C'est un problème à la fois social, économique, absolument géant. Et donc, la non-appétence pour le marché du travail, pour une partie de la population, c'est le fait que vous prenez des gens qui se disent « je vais être mal rémunéré, non considéré et je n'ai pas de perspective d'emploi ». Donc c'est ça le sujet. Ça nous ramène d'ailleurs au problème de ce qui est un problème majeur. Tous nos déficits, celui dont on parle depuis une demi-heure, seraient résorbés si les taux d'activité dans notre pays étaient, par exemple, on prend toujours l'exemple de l'Allemagne, pour une fois, prenons-le avec joie de vivre, c'est le fait que si on avait, en gros, la même appétence pour le travail, on n'aurait pas de problème, ni de déficit commercial, ni de déficit. Mais on ne l'a pas, pour ces 3 raisons que j'indique, et tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes-là, vous aurez, en réalité, non pas la grande flemme, comme je ne sais plus qui l'a dit, qui était idiot, mais l'idée simplement qu'il y a en réalité un problème de déséquilibre sur le marché du travail.
On va poursuivre et c'est passionnant. Gabriel Attal qui s'exprime en ce moment, je vous le dis, et puis on va y revenir, mais indique qu'il reste avec l'objectif de passer sous la barre des 3% de déficit en 2027, qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais qu'en revanche il n'a pas de dogme concernant la taxation des super profits. On en parle après le point sur l'info puisqu'il est 20h30.
Donc la taxation sur les super profits.
Le point. On discute après, messieurs. 20h30. Thomas Giraudeau, bonsoir.
Bonsoir. Gabriel Attal est invité du 20h de TF1. En ce moment, il vient de justifier les économies budgétaires nécessaires face au creusement du déficit public. 15 milliards d'euros de plus que prévu l'an dernier. L'économie a ralenti en fin d'année dernière, entraînant moins de recettes. La piste d'un durcissement de l'indemnisation des chômeurs est sur la table. Israël fait un pas vers Washington après avoir annulé un déplacement aux États-Unis suite à l'abstention des Américains lors du vote de la résolution à l'ONU appelant à un cessez-le-feu à Gaza. La diplomatie israélienne se dit prête à revenir discuter de la situation à Gaza avec son allié américain. Les frappes continuent, des dizaines de personnes ont été tuées ces dernières heures selon le Hamas, notamment à Rafah, au sud de l'enclave palestinienne. Une nouvelle étape dans l'enquête sur la disparition du petit Émile. 17 personnes vont participer à une mise en situation demain dans le hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Il s'agit des membres de la famille du garçon porté disparu depuis l'été dernier, ainsi que des voisins et des était moins visuel. Les autorités russes viennent de revoir à la hausse le bilan de l'attaque près de Moscou. Vendredi soir, 143 personnes ont été tuées. Les quatre assaillants ont été placés en détention provisoire. Et puis les Lyonnaises affrontent actuellement les joueuses du Benfica Lisbonne. Quart de finale, retour de la Ligue des Champions. C'est pourtant bien parti. 2-1 pour l'instant à l'aller. Les coéquipières de Wendy Renard, octuple vainqueur de la compétition, l'avaient déjà emporté 2-1 au Portugal.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Pierre Richer est là pour le Nouvel Observateur, grand reporter, Franck Boisy, journaliste économique à Libération, et Jean-Hervé Lorenzi, membre et fondateur du Cercle des économistes. Gabriel Attal s'exprime donc en ce moment. Il vient de préciser la phrase « La France n'est pas un paradis fiscal, n'est un paradis fiscal pour personne », dit-il. Mais en tout cas, vous l'avez bien entendu, il dit à la fois « pas d'augmentation d'impôts » et « pas de dogme, peut-être, quand même, concernant les super-profits. Comme une petite contradiction ou je me trompe, Franck Boisise ?
Il y en a au moins deux, Bérangère. D'abord, je reviens sur quand Gabriel Attal dit « la France n'est pas un paradis fiscal ». Je rappelle qu'il y a moins de 15 jours, il s'est réjoui de la significative progression de la lutte contre la fraude fiscale, oui, et des sommes récupérées qui est en augmentation. Donc dire que la France n'est pas un paradis fiscal...
Ce qui est une façon, justement, j'imagine, de valoriser aussi le travail qui a été fait de lutte contre la fraude.
Oui, mais en fait, ça veut dire quand même...
Mais que pour l'instant...
Certains s'affranchissent de l'impôt. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, sur le dogme de ne pas vouloir augmenter les impôts. Alors, ça, c'est l'affichage politique. C'est le panneau qu'on annonce. Après...
Qui est un peu ébranlé, quand même,
ces derniers jours. Parce qu'il y a des réalités. Il se trouve qu'on est au début de l'année 2024, donc on a les résultats pour l'année 2023 de toutes les grandes entreprises. Et que voit-on ? On voit que les plus grandes entreprises, c'est-à-dire celles, les 40 plus grandes entreprises cotées, ce qu'on appelle communément le CAC 40, ont dégagé pour l'année 2023 des profits assez records. C'est de l'ordre de 67 milliards d'euros, auxquels il faut rajouter 30 milliards d'euros d'un exercice absolument hallucinant qu'on va résumer en trois mots. Les entreprises ont pris une habitude qui est quand même assez extraordinaire. Elles se rachètent leurs propres actions. Et pourquoi se rachètent-elles leurs propres actions ? Parce qu'une fois qu'elles les ont rachetées, elles les suppriment d'un trait de plume et ça fait mécaniquement monter le cours de l'action puisqu'il y a moins d'actions et donc ça profite aux actionnaires qui voient le cours de l'action monter. Alors cette sorte d'anthropophagie financière est un truc qui a même finalement agité le président de la République, puisque Emmanuel Macron a dit dans un premier temps qu'il taxerait ses rachats d'actions, et puis finalement, il s'est ravisé. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, on a là une manne de 100 milliards d'euros, uniquement sur le CAC 40, sur laquelle, pour le moment, le taux d'impôt qui est pratiqué est somme toute relativement modeste, et sur lequel, en tout cas, il y a de la marge pour récupérer des recettes fiscales pour le budget de la nation.
Je reviens d'un mot, mais on développera quand il aura donné des détails. Gabriel Attal confirme qu'il y aura bien une réforme de l'assurance chômage cette année. On va attendre encore une fois les détails. Il dit également, concernant les super-profits et ce qu'on a commencé à aborder là, qu'améliorer la taxe sur les super-profits des énergéticiens est une piste que nous pouvons suivre. Moi, je voudrais comprendre, et je pense que les gens qui nous écoutent voudraient comprendre, comment cette taxe sur les profits des énergéticiens qui ont profité notamment de la crise ukrainienne, c'est un peu raccourci, pardon, mais bon, devait ramener 12 milliards et à l'arrivée n'en ramène que 300 millions. Alors, qui veut s'y coller ? Jean-Hervé Lorenzi, peut-être ?
Non, si je vous donnais l'explication, je
c'est
pense que...
C'est une vraie
que,
question, quand même. Hein.
Oui, et je vous réponds à votre question. Je pense que je mérite directement le prix Nobel d'économie. Personne n'a
allons-y,
compris,
si on peut vous
personne
aider.
Personne n'a compris de quoi il s'agissait. Moi, je suis incapable de vous répondre à cette question. Revenons un instant sur le... Si vous m'autorisez, Bérangère...
Je peux préciser ma question. Est-ce que ce sont des façons de procéder ? Est-ce que les entreprises ont des moyens d'éviter ça ?
Non.
Est-ce que c'est une erreur de calcul ?
C'est vraiment une erreur de... Enfin, moi, vous savez, critiquer le ministère de l'économie et des finances, c'est un déchirement personnel que je...
Pascal Richer a une idée,
oui,
puis je reviens vers vous.
Pascal a la solution.
Alors, j'ai pas du tout travaillé sur cette question, mais c'est vrai qu'il y a un mystère qu'il faudrait résoudre, parce que, surtout de la part de ce ministre Bruno Le Maire, qui se prétend sérieux, compétent, etc., il y a quand même... On a eu des bugs qui font qu'on est passé de 4,9 à 5,5, quasiment du jour au lendemain, dans le chiffre du déficit public.
Ça, vous nous avez dit que c'était pas grave. Je simplifie.
Non,
okay, je simplifie un peu, mais quand même.
J'ai dit qu'il fallait pas paniquer.
D'accord.
J'ai dit qu'il fallait pas paniquer. Non, mais simplement ne pas savoir où, parce que c'est quand même 20 milliards ou 18 milliards de différence entre les deux chiffres. Ne pas savoir où sont passés ces 18 milliards, c'est quand même assez.
Ah,
alors là, il y a 12 milliards. Cette taxe sur les super profits des énergéticiens, Franck Boisy a une idée, visiblement.
Alors, je n'ai pas d'idée ni de secret, mais il se trouve qu'à Libération, on s'est posé la question toute la journée. Oui. Et il y a quand même un truc
qui... Je pense que le Nobel d'économie est pour Franck Vasy.
Non, il n'y a pas de solution.
On a des pistes, simplement, Bérangère. Mais simplement, souvenons-nous, quand cette taxe sur les super-profits est annoncée, effectivement, pour marquer l'opinion, on dit d'entrée, avant qu'elle ne soit perçue, elle va rapporter beaucoup d'argent. Ce qui est assez étonnant, puisque c'est une taxe nouvelle qui n'existait pas jusqu'à présent. Et on dit d'entrée, voilà ce que ça va ramener. Et à ce moment-là, ceux qui ont suivi ça s'en souviennent peut-être, on a une levée de bouclier de tous les énergéticiens qui font leur boulot de lobbyiste en disant « c'est un scandale, on paye déjà beaucoup d'impôts ». Bon. Et alors, la deuxième question qui est quand même encore plus étrange, c'est que dans ceux qui doivent payer les super profits sur leurs recettes énergétiques, il y a quand même une entreprise qui s'appelle EDF, dont l'actionnaire unique et à 100% n'est autre que l'État. Et c'est là où le sujet devient carrément kafkaïen, c'est-à-dire comment le ministère de l'économie, qui quelque part est le patron d'EDF, a pu se tromper à ce point-là sur une entreprise qui est dans son giron et sur laquelle il espérait une recette fiscale très importante. Et là, on navigue quasiment dans le surréalisme.
Jean-Raphaël Lorenzi.
Oui, je trouve qu'on va mettre ça, tout ça, sous le vocable général de difficulté comptable. Ce que disait Pascal est juste. Moi, qui suis le plus ancien de vous tous, je n'ai jamais vu, une erreur de 0,6 sur un déficit public. Jamais vu ça. Donc, il y a quand même un petit problème. Maintenant, revenons sur la taxe sur les super-profits. Parce que ça, c'est très important. Moi, je trouve ça formidable de dire il n'y a pas d'augmentation des impôts, mais on va taxer les super-profits. Alors, moi, c'est assez simple.
Petite contradiction, là.
Je suis pour les profits. C'est bien qu'il y ait des profits. Maintenant, les dividendes et les rachats d'actions, ça sert à rien. Ce dont notre pays a besoin, je suis un peu répétitif,
ça sert à rien, c'est pas productif, vous voulez dire.
Ça ne sert à rien, il faut investir dans le pays. Et donc, je suis assez favorable pour que j'ai, comme tout économiste, sorti beaucoup de papiers qui ont un intérêt limité, mais j'ai sorti un chiffre sur un tiers de profit, deux tiers de rémunération du salaire. Un tiers. J'arrive à un tiers de rémunération sur les 100 milliards. À ce moment-là, c'est vrai que je mets une taxe sur ce qui dépasse selon ce niveau-là, parce que nous avons besoin que ces dividendes soient utilisés pour investir. On va pas faire, on nous bassine, si vous me permettez l'expression, sur l'intelligence artificielle, le matin, le soir et le petit déjeuner. Je vais pas répéter bassiner, mais on se concentre sur le réchauffement climatique à juste titre. On nous explique que le vieillissement, qui est le problème le plus important des trois, moi, mes calculs, c'est 90 milliards de plus par an, de plus liés au vieillissement de la population française à partir de 2030. Chez Géant, tout ça suppose de l'investissement, de la capacité de financer.
Sans parler de la défense.
Et sans parler de la défense. Mmh. Donc tout ça revient à dire qu'il faut mettre à plat tout ça. On arrête de se dire,
donc ça,
il
n'y
a pas
d'impôt,
il n'y a pas de ceci. Tout ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on finance les besoins d'investissement dans notre pays.
Et ça, c'est en taxant les super-profits. Ou en tout cas, en ponctionnant dedans. On est d'accord, Pascal Richer?
Je pense que quand il fait le distinguo entre « je n'augmente pas les impôts, mais je n'ai pas de dogme sur les super-profits », c'est que ils doivent imaginer une taxe un prélèvement ponctuel, c'est-à-dire pas un impôt qui serait pérennisé, mais un prélèvement ponctuel sur les entreprises qui ont fait ces profits sans rien faire, en se tournant les pouces simplement parce qu'il y avait une guerre en Ukraine, quoi, ce qui est quand même d'un point de vue moral.
Il y a d'autres exemples à part les énergéticiens.
Oui, on a un exemple, on a un autre exemple, c'est la taxe qui a été mise en place sur les aéroports et les autoroutes qui ont fait eux aussi.
On sait ce que ça a rapporté?
Bah, c'est la première année où elle rentre en vigueur, donc on est, je crois, sur 5 à 600 millions. Mais effectivement, on a considéré que ce qu'on a appelé un peu l'économie de la rente, c'est-à-dire que les autoroutes, s'il y a plus d'automobilistes sur les autoroutes, effectivement, les recettes des péages augmentent. Et donc, quand l'État a vu les recettes des aéroports et des autoroutes, il s'est dit, il y a un petit peu de, il y a un petit peu de gras à taxer. Donc, ça a été la première mouture, finalement, de cette taxe sur les super profits. Je voudrais juste rajouter un chiffre qui me semble important.
Alors, vous allez le faire après le fil info, si vous voulez bien, parce que l'heure tourne. 20h41, et notamment Gabriel Attal qui continue à s'exprimer, qui confirme donc une réforme une baisse de l'indemnisation des chômeurs de plusieurs mois, pas en dessous de 12 mois, dit-il, et qui donne jusqu'au 8 avril aux partenaires sociaux pour faire des propositions. Fil info, Sophie Tussaud.
Gabriel Attal conserve l'objectif de passer sous les 3% du déficit public en 2027, annonce dans le 20h de TF1, alors que le déficit de la France s'est creusé à 5,5% du PIB. Le Premier ministre écarte également toute hausse d'impôts et annonce une réforme de l'assurance chômage pour cette année. La justice saisie après les cyberattaques sur les ENT dans toute la France. Le parquet de Paris ouvre 3 enquêtes. De l'eau contaminée dans l'Aube, près de 185 personnes ont été intoxiquées à Bar-sur-Seine. Entre vendredi et dimanche dernier, l'eau analysée dans les lycées, collèges et hôpitaux présente la même bactérie. Attention au risque d'avalanche en Isère. Demain, il sera fort, prévient la préfecture, de niveau 4 sur une échelle de 5. Autre phénomène attendu, la dépression Nelson sur l'ouest du pays. 6 départements sont en vigilance orange pour vent violent. Israël a de nouveau prêt à discuter avec Washington de Rafah, annonce d'un haut responsable américain 2 jours après l'annulation des discussions prévues sur le sujet en raison de l'abstention des États-Unis lors d'un vote à l'ONU. Et puis ce coup dur pour Wout van Aert, le Belge souffre de multiples fractures à la suite de sa terrible chute à travers la Flandre. Il sera forfait pour le Tour des Flandres dimanche et Paris-Roubaix le week-end prochain.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Jean-Hervé Lorenzi, l'économiste, Franck Boisise, le journaliste économique de Libé, Pascal Richer, grand reporter au Nouvel Obs, sont là pour décrypter les annonces de Gabriel Attal. On finit sur le cyber-profit, puis on reviendra à l'indemnisation chômage avec toutes les annonces qui sont en cours. Je vous demandais juste avant la pause, Franck Boisise, quels autres secteurs sont touchés, sont potentiellement ponctionnables, on va dire, à part les énergéticiens. Et vous me disiez, on a travaillé sur d'autres cas.
Oui, parce qu'il suffit de voir les résultats, par exemple, dans des secteurs traditionnellement très porteurs, que sont les luxes. Le transport maritime, ces derniers temps, a été quand même particulièrement rentable.
Mais avait souffert avant. On parle de CMA, CGM, etc.
L'essence même de la taxe sur les super-profits est de dire on ne taxe que quand il y a super-profit. Au-delà...
Sans tenir compte des difficultés qui précèdent.
Non, en tenant compte uniquement de l'année donnée et à partir d'un certain niveau de profit. C'est-à-dire qu'on applique l'impôt, comme le disait Jean-Hervé Lorenzi tout à l'heure, classique sur le bénéfice. Et quand on dépasse un certain niveau de profit...
Ce serait quoi le niveau? Parce qu'on parle jamais, on donne jamais de chiffres là-dessus. Je sais bien que ce n'est pas décidé, mais ce serait quoi le niveau
raisonnable? Vous pouvez par exemple prendre la moyenne des bénéfices des 3 dernières années et puis voir s'il y a une différence entre cette année et cette moyenne.
Avec un seuil?
Oui, ça a été fait déjà. Même après la guerre de 14-18, il y a plusieurs pays qui ont mis en place des systèmes qui ont marché. On a réussi à reprendre les profits de guerre des industries d'armement et autres.
La France a fait ça?
Oui, il y a eu des débats. Je sais pas. Ça a été fait beaucoup moins, dans une moindre mesure qu'en Angleterre, par exemple, mais ça a été fait.
Objectivement, c'est pas très compliqué à déterminer. On va considérer que on va faire des calculs. Vous vous souvenez qu'il y a une quinzaine d'années, s'il n'y avait pas 15% de résultats sur le capital, sur l'investissement, on était nuls. Donc, on a toujours su arriver à mettre des chiffres sur les choses. Il s'agit juste de se dire qu'on est parti dans une difficulté économique majeure, des besoins gigantesques. Tout le monde se remonte un peu les manches. Et là-dessus, ce qu'on appelle les super profits. Alors, il faut pas que ça entraîne, trop d'excitation du côté de la France insoumise. Mais on va trouver des chiffres raisonnables qui font qu'à un moment, on passe du taux normal 25%. À 30% ou 25% pour les bénéfices à quelque chose qui est peut-être de 10% dessus. Tout ça est pas très compliqué.
Sachant qu'on peut rajouter une précision, avec laquelle je pense Jean-Hervé sera d'accord, c'est que toutes ces grandes entreprises qui dégagent des profits assez importants, en fait, ne payent pas tous leurs impôts en France. Il y a ce qu'on appelle un taux effectif d'impôt, c'est-à-dire que le pourcentage d'impôts qu'elles payent sur leurs bénéfices, il n'est pas de 25% comme la plupart des entreprises qui font toutes leurs chiffres d'affaires en France, mais c'est un taux beaucoup plus faible parce qu'ils pratiquent ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Donc, quand on calcule le taux effectif d'impôt de Total, de LVMH, de CMA-CGM, on est sur des taux qui sont plus proches de 10 à 15% d'impôts et non pas de 25% d'impôts sur les bénéfices. Ce qui fait qu'il nous reste quand même une marge sur cette notion de super profit.
C'est pour ça que c'est tout à l'heure exactement comme on disait. Il s'agit pas du tout de dire qu'il faut pas regarder les dépenses publiques et d'essayer de réduire là où on dépense de l'argent de manière totalement inutile et inefficace. De la même manière, il ne s'agit pas du tout de condamner le profit. Le profit, c'est une bonne chose quand ça sert à l'investissement. Je vous me permets de vous rappeler, vous relisez Max Weber, ce qu'est le capitalisme vertueux. C'est un capitalisme qui, en permanence, veut développer, faire de la croissance, de l'innovation, de l'emploi, de... C'est ça la logique de l'investissement, et on en a vraiment besoin dans notre pays. Voilà.
Alors, si on revient aux annonces concernant les taxes sur les super-profits, il n'a pas de dogme, c'est ce qu'il dit, mais néanmoins, il répète qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Ça veut dire qu'au lieu de faire rentrer de l'argent, on va couper les dépenses. C'est ça qu'il faut entendre, Pascal Richer.
C'est exactement ce qu'il faut entendre, et ça s'appelle un dogme. Précisément, c'est un dogme, c'est-à-dire... Quand je dis « je n'augmenterai pas les impôts », quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, je n'augmenterai pas les impôts, c'est un dogme.
Peut-être aurait-il été finalement plus perceptible par l'opinion publique qu'ils disent « je n'augmenterai pas les impôts sur les personnes physiques », par exemple, et de dire « l'impôt sur le revenu ne bougera pas ». Et ça aurait peut-être rassuré le plus grand nombre. Mais dire « je n'augmenterai pas les impôts de manière générique » veut dire effectivement « je ne touche pas au super-profit ». Il aurait pu aussi peut-être dire « je reviendrai sur certains aménagements fiscaux que j'ai faits », c'est-à-dire notamment ce qu'on appelle la ristourne sur les impôts de production. Les entreprises ont obtenu, en plus de la baisse du taux d'impôt sur les bénéfices, une ristourne sur ce qu'on appelle les impôts de production. Ça coûte 4 milliards d'euros par an. En ces temps de difficultés budgétaires, on aurait pu comprendre qu'on revienne sur un avantage fraîchement consenti. Ça n'a pas été le cas.
Alors je vais vous dire quelque chose qui va déchaîner la mauvaise humeur de vos auditeurs. Mais on voit bien que quand même le gros paquet, c'est la protection sociale. Mmh. Alors lui, il attaque sur l'assurance chômage. Je suis tout à fait d'accord avec Pascal, c'est pro-cyclique. C'est l'inverse de ce qu'on veut faire. En revanche, ça ne me choquerait pas. Moi qui suis retraité, qu'on regarde avec un certain sérieux, non pas les petites retraites auxquelles je pense évidemment qu'il faut les protéger et peut-être les augmenter, mais qu'il y a pas mal de retraités. Moi, ça ne me choquerait pas, par exemple, que la CSG des retraités soit alignée. Alors, je me suis fait absolument insulter en disant ça, mais je suis directement concerné, donc j'ai le droit de le dire, que la CSG soit alignée. Je ne vois pas pourquoi la CSG ne le serait pas. Mais ce qui m'ennuie, c'est que ça touche aussi les petites retraites. Donc, attention. De la même manière, ça ne me choquerait pas qu'on regarde un peu. Aujourd'hui, les revenus des retraités sont légèrement supérieurs à ceux des actifs, en moyenne, ça veut dire que le truc, ça ne me choquerait pas qu'on regarde un peu si on peut faire quelque chose là-dessus, plutôt que de toucher les chômeurs. Vous voyez, chômeurs et retraités, c'est ça le choix.
Alors, de petites retraites, je passe à petits salaires. Gabriel Attal annonce qu'il veut des allègements de cotisations qui incitent davantage à augmenter les bas salaires.
C'est bien.
Vous parliez tout à l'heure des salaires, de la smicardisation, etc. Ça va.
Et là, il faut qu'il développe le sujet, parce que je vous rappelle que les cotisations sociales sur le SMIC sont égales à zéro. Donc, c'est difficile de faire négatif, sauf à redonner de l'argent. Non, donc, c'est un sujet compliqué. Vous savez qu'il y a des tas de travaux qui sont lancés, notamment deux économistes tout talentueux qui vont, on ne sait jamais, les économistes, ça peut être talentueux, vont réfléchir à ce qu'on appelle la désmicarisation.
Les ordres de grandeur, c'est quoi quand on dit alléger les cotisations sur les bas salaire, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit perceptible pour les personnes concernées, Franck Boisy,
comme disait Jean-Hervé, de toute façon, déjà sur le SMIC, il y a une exonération. Donc ça veut dire monter sur une exonération.
Là, on est juste au-dessus du SMIC.
De charge, parce que le SMIC fonctionne comme une trappe finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est au SMIC, ce qu'on évoquait au début de l'émission, a des perspectives de franchir cette trappe du SMIC assez réduite. Mais là-dessus, il n'y a plus de cotisation sociale. Donc finalement, il n'y a pas de marge. Enfin, il y a un allègement très sévère de cotisation sociale, ou très sérieux. Donc l'idée, c'est de monter sur un allègement de cotisation sociale sur des salaires qui sont supérieurs au SMIC, jusqu'à une fois et demie, deux fois ou trois fois le SMIC. Mais le problème qui se pose à ce moment-là, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que dès qu'on allège les cotisations sociales de ce côté-là, alors certes, on aura une augmentation du salaire net, ce qui sera bénéficiaire pour le salarié, mais on ampute les cotisations sociales. Donc, on ampute le modèle social français. Et après, on va revenir les chantres de l'économie qui disent « Ah, mais il faut réduire les prestations sociales. » Donc, ce qu'on donne d'une main, on est quand même tenté de le reprendre de l'autre.
C'est moi qui dis évidemment. pour reprendre Jean-Hervé Lorenzi. On marque une pause pour le fil info, bien sûr, 20h51, et on va revenir sur les annonces concernant l'assurance chômage, ce tour de vis avec Gabriel Attal qui vient de terminer son interview sur TF1. 20h51, Sophie Tussaud pour le fil info.
Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, annonce de Gabriel Attal dans le 20h de TF1, alors que le déficit de la France s'est creusé à 5,5% du PIB. Le Premier ministre annonce en parallèle une réforme de l'assurance chômage. Concernant justement la dégradation du déficit, la commission des finances du Sénat a annoncé le lancement d'une mission parlementaire. Gabriel Attal, qui veut également mettre fin au pas de vague, il annonce une plainte pour dénonciation calomnieuse contre l'élève qui avait eu une altercation avec le proviseur du lycée, Maurice Ravel, à Paris. Le chef d'établissement avait démissionné à la suite de menaces de mort. Kiev réclame aux Occidentaux davantage de systèmes de défense anti-aérien patriotes. L'Ukraine a de nouveau été visée par des frappes russes, notamment à Kharkiv. Et puis le football, quart de finale retour de la Ligue des champions féminines. Lyon bat Benfica 4-1 et se qualifie pour le dernier carré.
France Info. 20h, 21h. France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Pascal Richer du Nouvel Obs, Franck Boisiz de Libération, l'économiste Jean-Hervé Lorenzi du Cercle des économistes et Adrien Beck, journaliste politique de France Info qui a suivi tout l'entretien de Gabriel Attal qui vient de se terminer. On va écouter un extrait puis vous nous commenterez tout ça. Extrait sur donc ce tour de vis sur l'assurance chômage qui est annoncé par Gabriel Attal.
Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage. Combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps que vous faites du chômage pour vous inciter à reprendre un emploi. Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les deux précédentes. Mais on va laisser les partenaires sociaux travailler. Ensuite, vous m'avez demandé le calendrier. Je veux que nous ayons les paramètres de cette réforme à l'été pour qu'elle puisse entrer en vigueur d'ici à l'automne.
Adrien Beck, c'est donc on a beaucoup évoqué les super profits en votre absence, l'indemnisation des chômeurs et globalement oui. Ce tour de vis sur l'assurance chômage, c'est vraiment ce qui était attendu finalement.
C'était ce qui était attendu et on pouvait s'attendre aussi à ce que Gabriel Attal fasse le choix de ne pas reprendre la main immédiatement sur les syndicats qui sont encore en train de négocier sur le volet de l'emploi des seniors. Donc Gabriel Attal, ça n'est pas dit dans ce qu'on vient d'entendre, mais évoque deux pistes. Alors il dit qu'il donne un cadre aux syndicats qui vont négocier, mais la réalité c'est qu'il fait part de ses préférences, donc le cadre il est déjà très étroit. Les deux pistes, c'est réduire la durée d'indemnisation de plusieurs mois, alors il dit pas en dessous de 12 mois, donc on peut imaginer qu'on passerait de 18 à 12. Par ailleurs, il y a aussi le temps qu'il faut avoir travaillé pour être éligible en fait au chômage. C'est 6 mois sur une période de 2 ans, il évoque la possibilité que ça puisse être 6 mois sur une période de 18 mois. Et donc, comme il le dit également, il n'est pas question, semble-t-il, de toucher au niveau d'indemnisation du chômage. La réalité est qu'on peut malgré tout s'interroger sur la raison du pourquoi maintenant, pourquoi venir faire cette annonce qui n'en est pas tout à fait une. Est-ce qu'il s'agit de parler aux agences? Est-ce qu'il s'agit de parler à un électorat? Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse à chaud et à brûle-pourpoint, j'allais vous dire.
Jean-Hervé Lorenzi, votre regard,
je vais vous rassurer, je suis convaincu que le problème numéro un, c'est les agences. Et donc, il faut absolument qu'ils parlent aux agences parce que Moody's s'excite.
26 avril.
C'est leur job.
Pour autant, ce n'est pas vraiment une annonce.
Oui, mais quand même.
Une bonne volonté.
Vous venez de le dire, passer de 18 mois à 12 mois, c'est quand même très, très important. C'est 6 mois de moins, c'est quand même très important. Et je pense que ça doit satisfaire nos célèbres agences qui ont la caractéristique de ne jamais réellement totalement approfondir les sujets et d'avoir des réactions quasiment, pavloviennes.
Est-ce qu'il évoque par ailleurs la reprise en main des négociations, de l'assurance chômage?
Il explique que donc Catherine Vautrin va être amenée à préparer de nouvelles négociations pour une réforme plus globale de l'assurance chômage. Ce sont les mots de Gabriel Attal. Donc on imagine envoyer sans doute une nouvelle lettre de cadrage aux syndicats qui si j'ai bien compris, c'est expliqué Gabriel Attal, vont donc terminer leur round de négociation jusqu'au 8 avril et vont repartir ensuite sur une négociation plus globale dont il espère un aboutissement autour de l'été pour une réforme pour l'automne.
Donc ça va vite, oui. Franck Boisier.
C'est une forme de pression que met Gabriel Attal, parce que quand on observe le processus tel qu'il se passe depuis la réforme de l'assurance chômage, il y a ce qu'on appelle le constat de carence, c'est-à-dire que si les partenaires sociaux autour de la table n'arrivent pas à se mettre d'accord et à aboutir de la réforme qui est en vigueur, le gouvernement reprend la main et là décide de façon unilatérale ce que sera la réforme de l'assurance chômage. Donc en faisant cette annonce, le Premier ministre dit « voilà ce que j'attends de vous, si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, je le ferai de mon propre chef ».
Pascal Richer.
Oui, je suis parfaitement d'accord, ça ressemble un peu à un coup de force et c'est l'aboutissement de la prise de contrôle de l'UNEDIC par l'État. Oui,
ouais, ça signe clairement ça pour vous. D'autres annonces ou globalement un mot pour conclure.
Alors une autre annonce sur un autre sujet que je vous livre également sur cette histoire de cet enseignant de ce proviseur d'établissement scolaire. C'est l'autre annonce de ce soir de Gabriel Attal, même si elle n'est pas sur les sujets des déficits, sur ce proviseur qui a dû partir en retraite anticipée après des menaces de mort dans un établissement parisien, eh bien, Gabriel Attal annonce que l'État va porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre la jeune fille qui avait dénoncé justement ce professeur, ce qu'il avait provoqué derrière les menaces de mort. Voilà, ça n'a pas de lien avec les déficits,
absolument,
mais c'est une information importante.
Et puis évidemment, il y a ce dogme qu'il n'a pas sur les super-profits, mais on en a longuement parlé avec nos informés ce soir. La une de Libération, demain matin, peut-être.
Elle est en cours d'élaboration, mais elle sera liée au gaspillage alimentaire. Et nous titrons « N'en jetez plus ».
Je suis désolée, vous aviez un croquis, vous avez très envie de nous en parler, mais je pense que ça va être trop long.
On en a parlé déjà un petit peu. Donc,
bon,
on avait les chiffres principaux, c'était les fameuses prévisions sur les finances de l'assurance chômage. Un chiffre en 2027, on prévoit un excédent de l'assurance chômage. 2027, c'est simplement en 3 ans, de 11,2 milliards à transmettre au service du Premier ministre qui s'inquiétait de l'état des finances de l'assurance chômage.
Et 1,6 milliard, si j'ai bien noté ce que vous nous avez dit tout à l'heure, pour cette année.
Pour cette année,
Pascal Richer, le nouvel Obs de cette semaine.
Alors voilà, sommes-nous devenus plus bêtes? Donc on s'interroge sur l'impact de la révolution numérique qui devait nous rendre plus intelligents normalement et on se demande si effectivement elle est responsable de la baisse du niveau scolaire, des fake news et de bien d'autres mots. Ou pas.
Ouais, et Chignal, la sortie demain d'un ouvrage collectif édité par le Nouvel Obs et Liana Levy sur 3000 ans de relations Israël-Palestine en 33 dates clés. Ça s'appelle La tragique et fascinante histoire d'une terre promise et vous écrivez le tout début de l'histoire vers 1000 avant Jésus-Christ.
Alors j'écris vers 1000 et puis
mais
j'écris.
Mais il faudra que nos lecteurs
y
aillent parce qu'il va être l'heure.
Juste un mot. Demain matin, je présente les rencontres économiques d'Aix-en-Provence 2024 et le thème sera. Attendez, c'est de l'optimisme là. Notre heure, c'est relier les mondes vers une réconciliation. C'est pas beau, ça?
C'est beau. Demain matin à 9h, ce sera peut-être juste avant les informés, c'est Salia Bracli et Renaud Dely. Et nous, on sera là dès 20h. Bonne soirée.